ça changerait.
Oui et non.
Une autre forme de recherche.
Oui, exactement, mais je crois que c'est celle dont les gens ont le plus besoin actuellement. Parce que il n'y a aucun doute que l'architecture conditionne quand même le cadre de vie et que finalement il commande l'équilibre des hommes et des familles et des citoyens. Ben, donc, et je crois que c'est là où, peut-être pour mille raisons qui ne dépendent absolument pas des architectes, bien sûr, il y a le problème de la rigidité des structures, il y a le fait que des moyens, on ne peut pas tout rebâtir, etc. Enfin, je crois quand même que c'est dans ce domaine, et spécialement dans l'architecture urbaine, que les plus grands efforts sont à faire maintenant.
Vous pensez à l'architecture parce que vous dites « nous sommes très mal logés ».
Eh bien, je dis, d'abord, il y a des mal logés, c'est vrai, mais ensuite, même le cadre, voyez-vous, des villes n'a pas été pensé en fonction à la fois pas d'une esthétique, des conditions de vie internes, des conditions de circulation, etc. Or c'est certainement dans un meilleur équilibre dans ce sens-là que je crois que les gens des villes ont le plus à espérer dans les 20 ans qui vont venir.
Et vous estimez que là encore nous nous laissons dépasser?
Oh, ça je ne sais pas, alors là j'en suis pas sûr. Encore une fois, vous savez, je peux pas dire que je revienne de tous les voyages que j'ai faits avec le sentiment que nous soyons vraiment un cas à part. Je pense que le monde moderne a, si vous voulez, un problème fondamental qui est celui de la vitesse d'évolution. Tout le monde a réalisé brutalement qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Et c'est vrai, si on ne se soucie pas des choses qui sont sur les bords, comme on dit, enfin des autres choses, si vous prenez une ligne d'action, vous pouvez décider de faire à peu près n'importe quoi. La preuve, on a décidé aux États-Unis d'aller à la Lune, on y est allé. Mais ceci dit, vous ne pouvez pas faire changer assez vite l'ensemble d'un pays dans tous ses aspects, que ce soit les constructions, que ce soit les transports, que ce soit l'habitation, etc. Bon. Mais vous ne changez pas les gens. Et pour changer, les gens ont besoin d'au moins 20 ans. La période de changement d'état d'esprit de l'homme, c'est une génération au moins.
Et l'homme ne veut pas se battre.
Et l'homme ne s'adapte pas assez vite. Il ne résiste pas à cette évolution très rapide. Donc il y a forcément une crise. Et cette crise est mondiale, elle n'est pas spécialement française. Alors, il y a des pays qui sont plus ou moins avancés. Mais je crois que maintenant, il faut se faire une nouvelle mentalité et se dire qu'il faut s'attaquer à la fois aux problèmes technico-économiques, mais à la fois aux problèmes humains. Hein, mais sous la forme d'une meilleure compréhension des buts poursuivis par la société, disons, industrielle et la société technique, qui doit être finalement au service de l'homme.
Jean Bertin, ma question va vous paraître naïve, mais j'en attends une réponse. Pourquoi fait-on de la recherche?
Eh bien, on fait de la recherche parce que la recherche est le seul moyen de progrès. C'est le seul moyen de progrès, puisque finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un produit? L'homme consomme des produits et des services. Eh bien, on attend d'avoir davantage de produits, mais il faut produire plus. Et tout le machinisme a découlé de là. Hein. Et on en est à l'automatisation maintenant. Il faut arriver à l'automatisation complète de certaines productions. Deuxièmement, à production, disons, donnée, il faut que les produits soient les moins chers possibles et de meilleure qualité. C'est donc dire tout énoncé d'une façon simple, que ce qu'on a actuellement est encore loin d'être parfait. Mais pour faire mieux, il faut chercher et développer.
Vous m'avez dit tout à l'heure, il faut changer de vitesse. Vous pensiez au transport.
Alors là, c'est un problème, oui, c'est le problème de l'adaptation des transports aux villes. Les villes sont restées avec la conception des transports.
Paris est invivable.
Eh bien, Paris devient... Paris et toutes les villes denses. Disons toutes les villes denses. Vous avez dans le monde deux sortes de villes. Vous avez les villes denses et les villes diluées. La ville dense est une ville historique dans laquelle les rues ont une surface limitée, ont, comment dirais-je, un tracé qui est vraiment fantaisiste parfois. Eh bien, le taux de circulation automobile est tel qu'il y a engorgement, c'est un fait, à au moins certaines heures. Et ensuite, on a bien, dans certaines villes, mis des voies de transport en commun qui ne soient pas liés aux encombrements du sol, c'est-à-dire l'autobus. Bon, ben, l'autobus, mais si la rue est encombrée, l'autobus ne passe pas, à moins d'en chasser les voitures. Mais ça, c'est comme ça que se pose le problème dans la généralité des cas. Alors, on fait un système de transport qui est souterrain. Alors là, parfait, les métros, ce sont des engins remarquables. Mais le coût d'un souterrain est tel que vous ne pouvez le justifier économiquement vis-à-vis d'une communauté que quand il y a un nombre d'usagers suffisant pour le payer, je ne parle pas le payer de façon directe, mais que les emprunts qu'il faut contracter pour le construire, on puisse au moins en payer régulièrement les intérêts, les charges de ces emprunts. Et ceci ne se produit que quand il y a des densités de trafic énormes, disons entre 20 et 50 000 passagers par heure, aux heures de pointe. Ceci, dès que vous éloignez des zones denses où il n'y a plus des trafics aussi élevés, vous ne pouvez plus passer en tunnel.
Alors,
comme on ne peut pas passer au niveau du sol,
au-dessus,
vous constatez, ben oui, mais vous constatez qu'il n'y a pas eu de transport en commun de vraiment nouveau fait depuis 50 ans dans les principales villes européennes. Parce que passer au niveau du sol est presque aussi cher, pas tout à fait, mais presque aussi cher que passer en souterrain, car il faut exproprier tout le monde et vous créer des coupures. C'est pour ça que nous avons poussé l'aérotrain comme de la façon dont nous l'avons fait depuis 10 ans, car c'est le moyen d'échapper à ce dilemme. Car vous passez au-dessus, donc vous n'avez pas les expropriations majeures, vous ne coupez absolument pas la continuité des sols. Deuxièmement, vous allez vite sur des structures extrêmement légères, alors que des chemins de fer conventionnels, pas sur, disons, en voie surélevée, ont besoin de structures extrêmement lourdes, qui, si elles ne sont pas en briques ou en pierre, sont très bruyantes, etc. Donc, l'aérotrain se justifie dans et autour des villes, par une facilité d'implantation beaucoup plus grande, des vitesses de service plus grandes, qui sont intéressantes précisément à partir du moment où vous éloignez du centre.
Oui, mais si vous passez au-dessus du sol, vous abîmez l'environnement, vous abîmez le paysage. Enfin, on va le dire en tout cas.
Oui, ça a été dit déjà. Mais là, il faut être net. Il y a deux réponses. La première, c'est que vous avez, du point de vue esthétique, des zones urbaines dont il ne faut pas changer l'aspect. Quand vous parlez des Champs-Élysées ou de quelques, mettons 10 exemples comme ça dans Paris, je suis tout à fait de votre avis. Mais vous irez me dire que l'avenue du général Leclerc à la porte d'Orléans s'est défigurée par une voie d'aérotrain?
Non, pas du tout.
Or vous verrez que la banlieue parisienne, et ça, on peut dire que 90 ou 95% de cette banlieue est tellement horrible actuellement, il faut dire les choses comme elles sont, que ce n'est pas l'aérotrain qui est. D'autre part, il y a une autre réponse qui est la suivante. Si pour que la vie en ville redevienne agréable, il faut des transports surélevés, eh bien, il se passera ce qui s'est passé dans tous les temps. C'est-à-dire que ce qui a été fonctionnel à une époque devient esthétique par la suite. Car les aqueducs romains que tout le monde admire actuellement étaient des engins horriblement fonctionnels à l'époque.
Vous avez les bons exemples.
Ouais. Et il y en a d'autres.
Si je comprends bien, Jean Bertin, il faudrait vivre à 100 km de Paris et ensuite venir travailler à Paris, justement avec ces aérotrains qui nous conduiraient aux portes de la capitale.
Je compliquerai votre proposition de la façon suivante. Il y a deux catégories de gens, deux grandes catégories. Il y a ceux qui voudraient vivre avec de l'espace à la campagne, mais arriver à Paris facilement. Et ceux-là, voilà, c'est exact. Et puis il y a les autres. Il y a tout de même ceux, dont je pourrais être d'ailleurs, qui une fois par exemple les enfants élevés et autres, vivraient très bien par exemple dans le quartier latin ou dans d'autres quartiers comme ça de Paris. Car le mode de vie de ces quartiers est très agréable. Moi j'ai vécu à Lix la période 38 dans le coin de la rue Mouffetard, de la rue la montagne Sainte-Geneviève et autres. Eh bien je vous assure qu'il y a là une chaleur humaine, il y a un intérêt de la vie prodigieux. Bon. Mais si vous en évadez facilement, le jour où vous voulez quitter Paris, vous ne soyez pas obligé de vous dire mais j'en ai pour une heure ou une heure et demie ou deux heures de conduite, etc. Les gens, ceux qui veulent vivre dans la ville dense et voyager à pied la journée, peuvent le faire. Et ceux qui veulent vivre loin également avec ces moyens de transport rapide pourront le faire. Et les voitures des gens qui veulent venir à Paris simplement pour une journée, pour des courses et autres, à ce moment-là n'encombreront pas les rues pour rien.
Mais dans combien de temps arrivera-t-on à cette solution?
Il faut du temps, bien sûr, parce qu'on commencera par faire une réalisation, puis avant que ce soit un système, il faut beaucoup de temps. Mais disons que je pense qu'en une vingtaine d'années, et encore une fois, ce n'est jamais que le temps d'une génération, on pourrait vraiment changer les conditions de vie dans les villes.
Jean Bertin, vous dites parfois, attention au transport, c'est le mot tabou. Pourquoi ?
Eh bien parce que c'est un sujet qui est à la fois, qui est difficile par de nombreux aspects. Il est difficile parce que, d'abord, les sommes impliquées sont grandes, parce qu'ensuite, il s'installe dans le domaine public, ou plus exactement, il perturbe le domaine public. Il faut s'installer, en déplaçant quelquefois des gens. Ensuite, la rentabilité est souvent du second ordre. Quand je dis du second ordre, c'est pas en importance. C'est qu'elle ne s'exprime pas directement par l'argent qu'on retire du prix que le passager va payer. Parce qu'après tout, un moyen de transport, surtout ceci est valable dans les zones urbaines ou suburbaines, eh bien, un bon transport permet d'économiser les autres investissements. Et qui a un retour financier qui est beaucoup plus complexe que celui qui revient du prix du billet. Et ça complique les calculs. Et on vous dit, oui, mais cette ligne n'est pas rentable, etc. Faire l'ensemble des évaluations qui conduisent à mieux apprécier la situation est difficile. Puis, enfin, dernier point, c'est un aspect politique marqué. Donc la combinaison de tout ça fait que c'est un sujet très difficile.